Chers téléspectateurs, l'homme qui vous parle, pendant qu'il en a encore le droit, était jusqu'à lundi soir un seigneur, un féodal, un potentat, bref, un homme marié. Depuis mardi matin, notre règne est fini.
Langue de
France. Une émission féministe sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM.
En fait, ce qui nous a réunis, c'est ce désir commun de faire avec d'autres, en fait. Trouver d'autres femmes qui ont ce même désir.
Langue de fronde.
Langue de fronde. Une émission féministe sur 106.3 FM, Fréquence Paris Pluriel.
Tous les deuxièmes lundis du mois de 18h à 19h et en rediffusion tous les troisièmes jeudis du mois de 7h à 8h.
Vous savez, François, j'aurais une petite confidence à leur faire.
On est bien sur l'onde de fronde. Vous écoutez Mes voisines, un documentaire sonore réalisé par Mélanie, écoutable sur la plateforme Podcast Ocha, A-U-S-H-A.
Tu l'as, ça? Ça me fait être sérieuse. Il y aura un petit...
Attends, tu veux qu'on se mette là, franchement, il y a une meuf qui vient là. Ah, mais c'est... Comment on peut se mettre à dire, on peut se mettre là, si tu veux. Mais oui, parce que là, regarde, je suis rigolée. Enfin, t'es bien, c'est bien. Tu veux... Tu as les boulots, quoi. C'est horrible. C'est trop dégueulasse, quoi. Ça se fait pas de faire ça.
Mais excuse-moi, j'ai pas capté.
C'est ta faute.
Mais tu fais rigoler.
C'est ta faute. Par contre,
ouais. Non, mais au début, c'est pas marrant. Je te fais juste une intro.
Putain, mais je... Ah non, c'est pas marrant, je croyais que c'était carrément...
Non, c'est pas triste non plus.
Je m'appelle Mélanie, je suis lesbienne et j'habite près du Père Lachaise. Il y a quelques années, j'ai vu le film Les Stances de Sophie de Moshe Mizrahi. C'est un film qui est basé sur un roman crypto-lesbien de Christiane Rochefort. Et suite à ça, j'ai pris l'habitude d'aller régulièrement m'asseoir devant la tombe de Christiane Rochefort. Il y a un petit banc brinque-ballant et sur la tombe, il y a un éléphant sculpté dans la pierre. Et puis, en tant qu'habitante du quartier et de fil en aiguille, j'ai réalisé que Monique Wittig et Delphine Palazzi, alias DJ Sextoy, illustre femme lesbienne, étaient elles aussi enterrées au Père Lachaise. Et puis, un matin de décembre 2018, au petit déjeuner, j'ai eu une illumination. Il y avait peut-être d'autres femmes lesbiennes enterrées au Père Lachaise. Et je pourrais aller essayer de les trouver. Et raconter leur vie à des copines concernées qui, en écho, me raconteraient les leurs. Les vies des voisines défuntes seraient des points de départ pour évoquer comment leur héritage résonne aujourd'hui. Et tous ces récits pourraient prendre forme dans une création sonore. Après quelques mois d'arpentage du cimetière, de recherche, de lecture, j'ai rencontré plein de femmes lesbiennes enterrées au Père Lachaise. Et j'ai choisi d'en garder 6. Mes voisines. Ces 6 personnes m'ont marquée par leur courage, leur panache, leur audace et leur romanesque. La première, elle est née en 1756 et la dernière est décédée en 2003. Avec elle, on va parcourir 4 siècles. Elle s'appelle Françoise Raucourt, Rosa Bonheur, Mathilde de Morny, Monique Wittig, Delphine Palazzi, Gertrude Stein. Après enquête, je n'ai pas trouvé de preuves tangibles de l'homosexualité de Christiane Rochefort, j'ai donc dû m'en séparer, à regret. Et puis j'ai demandé à 3 amies si elles voulaient bien me suivre dans cette aventure et partager leurs histoires avec moi. Ce sont elles aussi mes voisines. Elles ont toutes une 30aine d'années et ne vivent pas très loin du Père Lachaise. Elles s'appellent Camille, Louise et Tani. Et en écho à ces récits de vie intime, j'avais envie que l'on entende la voix et les histoires de Suzette Robichon. Elle a un lien singulier avec une grande partie de mes voisines, vous verrez. Et voyager dans le temps avec ses voisines m'a aussi amenée à me poser plein de questions. Comment parler de vie passée, des personnes que je n'ai pas connues, avec les mots, les concepts et les lunettes du présent? Nous n'avons pas toujours de témoignages de ces personnes sur la manière dont elles vivaient leur choix de vie, l'orientation de leurs désirs, leur identité de genre. Nous composons avec les traces qu'elles ont laissées et les archives dont nous disposons. Toutes d'ailleurs n'ont pas utilisé le mot lesbienne pour parler d'elles parce que ce n'était pas toujours possible, pas autorisé, que le mot n'existait pas ou qu'il n'était pas investi de la même manière. J'avais la crainte, en utilisant la catégorie lesbienne pour parler de ces 6 personnes, de parfois fixer des identités et des trajectoires de vie, de faire des contresens anachroniques, de renoncer à la complexité de vie beaucoup plus fluide, riche et mystérieuse, et de circonscrire leur densité. Il m'a donc fallu composer avec ça, entre rendre visibles des vies de la manière la plus précise, honnête et ouverte possible, sans invisibiliser le fait que ces femmes, ou personnes assignées femmes à la naissance, ont eu des relations avec d'autres femmes, qu'elles ont vécu, créé une intimité, eu des relations sexuelles avec des femmes, et qu'elles leur ont parfois même légué un héritage. Pour en finir avec le pouvoir maléfique d'invisibilité des lesbiennes, même jusque dans la mort, et nous permettre de faire communauté en connaissant l'histoire de ces figures importantes, et continuer d'écrire l'histoire à notre tour. Et puis un jour, j'ai entendu Nelly Kemener à la radio. Elle est maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication. Elle participe à un groupe de recherche au sein de l'Agence nationale de la recherche sur la médiatisation de la mort des célébrités. Ça s'appelle les éternités numériques. Elle et son équipe ont analysé toutes les archives médiatiques autour des célébrités mortes en 2012, soit plus de 20 000 données. Et dans ce corpus, il n'y a que 15% de femmes. 15% de femmes dont le décès a été médiatisé en 2012. Et aucune lesbienne. Alors soit aucune lesbienne n'est décédée en 2012, soit aucun média n'a jugé utile de le préciser. Alors moi, ça m'a particulièrement intriguée et intéressée parce que je passais beaucoup de temps avec des lesbiennes décédées. On a donc discuté avec Nelly des modes de valorisation des vies et des morts, et de quelles vies méritaient hommage.
La période contemporaine, elle garde des gens et elle en efface d'autres. Et donc, quand je dis qu'il y a des hiérarchies, c'est qu'il y a des personnes que l'on garde en mémoire collective. Il y a des personnes que l'on célèbre en mémoire collective ou qu'on célèbre au moment de leur décès comme des personnes dont on doit se souvenir. Donc, on investit d'une sorte de sentiment collectif, voire d'une émotion collective qui est produite au moment du décès. Et il y a des personnes qui sont complètement évacuées de ce champ-là. Et qui en sont évacués parfois pour toujours. Et parfois, il y a des retours, je trouve ça intéressant quand il y a des retours justement des personnalités oubliées. J'ai envie de dire, les personnalités qui restent, c'est celles qui suscitent des formes de consensus en termes de valeurs. Donc ça raconte surtout ce qui se passe à une époque donnée, en fait. Et d'une certaine façon, les personnes qu'on a évacuées, ça raconte aussi les conceptions qu'on a de soi, les conceptions qu'on a de par exemple de l'art ou du cinéma ou de la nation. En fait, ça raconte tout ça. Et de ces conceptions-là, sont toujours évacuées de certaines personnes, en fait. L'un des gestes politiques que l'on peut effectuer dans ce cas-là, c'est effectivement de remettre sur le devant des carrières oubliées, des œuvres oubliées, des sensibilités ou des regards oubliés aussi, parce que c'est pas tout d'effacer les personnes, c'est qu'en même temps qu'on efface des personnes, on efface aussi des savoirs. On efface aussi des regards, on efface aussi des sensibilités, on efface des manières et des visions du monde, des manières de percevoir le monde. Et ça, c'est terrible, parce que c'est presque des épistémicides, en fait. C'est toute une logique, toute une relation au monde qui est effacée. C'est qu'évidemment, si on considère que ce qui est valorisable dans... Si on regarde ce qui se passe médiatiquement autour de ces vies et de ces morts, en fait... les vies qui méritent hommage, ce sont des vies qui déjà correspondent à un certain nombre d'accomplissements. Ce terme-là même, voilà, quand on dit d'accomplissement, c'est ça fait œuvre, où il y a une forme de génie, de talent. Et on voit bien que déjà les termes sont, dans un imaginaire en tout cas féministe, on voit bien que ce sont des termes qui sont finalement très connotés du côté de la masculinité. Mais le génie, c'est une invention. Le génie n'existe pas. Il y a des manières de voir, il y a des visions du monde. Et en fait, ce que l'on a désigné comme quelque chose de l'ordre du génie ou du talent, c'est bien souvent quelque chose qui, conjoncturellement, contextuellement et selon les rapports de force, a été désigné comme étant de l'ordre du génie. Donc c'est vraiment la production aussi du talent comme un élément de légitimation. Voilà.
Et alors, les lesbiennes ne meurent pas, du coup?
Alors, on non aucune... Alors, en 2012...
On n'a pas une théorie scientifique.
Alors, parce que, effectivement, moi, mon raisonnement, il fonctionne par l'absurde. C'est si les gens ne sont pas dans le corpus, c'est que il ou elle meurt moins, et ou alors il ou elle ne meurt jamais. Ce qui me semble être une théorie ou une sorte de logique assez intéressante. Et donc, dans tout cela, effectivement, les lesbiennes ne meurent jamais. Dit autrement, les lesbiennes sont immortelles. L'effacement, ce n'est pas qu'un effacement comment dire, ce n'est pas un effacement de la réalité des personnes, c'est un effacement du récit aussi de ces personnes. Et c'est là où c'est beaucoup plus complexe. C'est que ce n'est pas simplement qu'il n'y a pas de lesbiennes qui meurent. Potentiellement, dans le corpus, il y a des lesbiennes que je ne connais pas. Après, on s'est basé principalement sur les titres. On n'a pas eu le temps d'aller voir toute la complexité dans les articles, dans les reportages, puisqu'on avait un énorme corpus. On avait 29 000 articles, reportages, émissions, etc. Donc, c'était trop, évidemment, pour analyser ça. Donc, on a fait du quanti qui efface la complexité de l'analyse qualitative. Et en fait, déjà, dans les titres, on a beaucoup d'éléments sur la présentation des personnes. Et en fait, dans les titres, effectivement, le lesbianisme n'existe pas, ou n'existe quasiment pas. Voilà. C'est quelque chose qui est quasiment évacué, en fait, de l'appellation et de l'interpellation, en tout cas des formes de qualification des personnalités décidées.
Et qu'est-ce que ça produit de pas visibiliser à ce point les lesbiennes qui meurent ?
Ça rejoue les effets d'invisibilisation. En tout cas, ça tend soit à minoriser les personnalités qui ont fait du lesbianisme un élément un peu de caractérisation, soit de leur œuvre, soit de leur action politique parfois, ou de leur pratique de manière générale. Et là, j'ai l'impression que c'est des endroits de minorisation parce que les médias ne se disent pas que ça va intéresser le grand public. Ils se disent que ça va intéresser un public spécifique. Et donc, ça amène une sorte de détournement d'attention, en fait. Soit ça implique que la question de la sexualité, ici du lesbianisme, est juste une forme de détail que l'on évoque toute une série de conditions. Donc évidemment, ça rejoue le fait que... la possibilité d'une identification lesbienne forte et d'une construction de soi ou de son œuvre de ce côté-là est quasiment rendue impossible ou inimaginable. Voilà, c'est un horizon qui ne s'ouvre pas.
Donc on va alterner, on va passer sur les tombes et on va alterner récits de vie. Je vais te raconter avec une certaine perspective et la vie de ces personnes. Et puis ensuite, en écho, je te poserai des questions pour voir comment tout ça résonne.
Ça me va, je te suis dans cette aventure.
Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel au 106.3 FM et on est sur un créneau spécial de l'émission Langue de Fronde pour écouter ensemble un extrait du documentaire sonore Mes voisines de Mélanie. On vient d'écouter le préambule et à la suite l'épisode numéro 1 sur Monique Wittig.
Freedom down there, I swear. Do you see me smirking? Do you see me wearing a merkin? Get in the form. formation and let's start triangle jerking, triangle jerking. Oh my God. Showing off my map of Tasmania.
Langue de Fronde, une émission féministe sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM tous les deuxièmes lundis du mois de 18h à 19h. Rediffusion tous les troisièmes jeudis du mois de 7h à 8h.
C'est bien, on s'arrête là, non?
C'était parfait.
Bou, 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 tu te sens si malheureux. Tu nous pousses à bout sans voir plus loin que le bout de ta queue. Tu te dis empêcher et bâillonner. Tu parles de liberté et tu évoques le 7 janvier. Et bla bla bla, je vais brûler ton CD. Et bla bla bla, je vais brûler ton papier.
Vas-y, va tout droit, je te guide, je te dis chaud froid. Tout droit, tout droit, tout droit. Ferme les yeux, comme on a dit.
Je ferme les yeux, non.
Toujours tout droit. Toujours tout droit. Devine qui on va voir.
J'ai peur. Je sais pas. Ah, elle est là. Oh mon Dieu.
Je te propose de faire une balade au cimetière du Père-Lachaise et de rendre visite à celle que j'ai appelée mes voisines.
T'as mis des chaussures, oui, pour la marche.
On compare sur un principe de
Gwyn Quechua.
Quechua.
Voilà, je savais que ça allait être
assumé.
Voilà. Coucou Monique, on est de retour. Ça va?
Coucou.
Installe-toi, je t'en prie.
Des lesbiennes ne sont pas des femmes.
Tellement bien.
C'est trop bien.
Voilà, c'est culte.
Le lesbianisme, ça préserve.
Vue sur tombe.
Ouais.
Quel romantisme.
C'est vraiment une question, ça.
Un truc de jouissance de la tombe, tu sais, à durer...
Ah ouais, carrément, jouissance de la tombe.
Waouh, tu vas loin, là.
Le doigt mouillé, pas...
No comment.
Voilà, elle est là.
Quelqu'un a mis un mot?
Oui.
C'est toi?
Non.
Plutôt, bah.
Non, c'est pas moi. C'est nouveau, c'est la première fois.
C'est vrai, tu déconnes pas?
Non, je déconne pas.
Parce qu'en plus, c'est en forme de vulve quand même. Hein.
Putain, c'est clair. Moi, je pense qu'on peut le lire. Parce que c'est quand même un signe du destin. Ça te fait peur?
Non, non, pas du tout. Mais okay. T'es sûre que c'est pas toi qui l'as mis?
Bah, je te jure. C'est pas mon écriture du tout.
Mais du coup, par contre, il faut absolument qu'on le remette au même endroit. Hein.
Ouais.
Vas-y.
Non, 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 vas-y.
Alors, c'est signé Aurélien. Ton bloc de granit ressemble fort au tourbillon du désert où Anastrabal te guida. Les avions à hélices posés là me confortent dans cette vision. La très sobre mention « écrivain » aussi a toute l'apparence d'un mot solide et définitif. Ta tombe me mène à imaginer ta démarche que je vois comme atomique. Je m'explique. Concentré, rassemblé,
décidé. Je me demande
décidé.
Si vraiment ton intention
pour ma part, était de j'ai dissimer. Beaucoup dialogué avec tes chevaux épiques.
Ça a plutôt l'air d'un défi.
Le souffle de leur naseau est ravageur.
J'ai plongé là-dedans et pour rejoindre l'armée des L, je suis devenu un il. Un I-L. Transfuge, dis-tu, le bestiaire prolifère. Il m'est comme avis que c'est d'ici qu'il surgit. Aurélien, un Monique Wittig, ma très chère.
C'est un poète, hein?
Ouais.
Donc en fait, c'est une tombe, mais c'est une sorte de sculpture. Une sculpture assez épurée, géométrique, à partir de cubes. On imaginerait 4 cubes, avec un cube qui serait enlevé.
Camille.
Et les cubes sont faits en pierre plutôt claire. Et puis il y a juste une petite plaque devant, marquée Monique Wittig de manière manuscrite, si on imagine avec sa calligraphie à elle. Et puis écrivain, 1935-2003.
On est parti?
Ouais.
Ouais. Allez, c'est parti.
Je prends mon sac à dos de randonneuse.
Et c'est parti.
Et puis je vais te raconter un petit peu, peut-être tu la connais déjà un peu, la vie de Monique Wittig.
Bah, j'ai découvert, je connaissais de nom, mais ça fait pas très longtemps que je m'y plonge, entre guillemets.
Tani.
Et j'ai lu justement ce week-end.
C'est vrai ?
La pensée straight.
Enfin. Ok. Attends, t'as réussi à la finir en un week-end ?
Ouais, mais j'ai. Ouais.
Trop forte !
J'étais lancée.
Donc Monique Wittig, c'est une écrivain, comme il y a écrit sur sa tombe, une dramaturge, une militante féministe, lesbienne, une théoricienne. Elle est née en 1935 en Alsace. Elle a grandi dans l'Aveyron. Et puis, comme toi. Non, pas du tout. Comme tes vacances de l'an dernier.
Elle commence à écrire à 12-13 ans. Quand elle tombe amoureuse d'une petite fille, elle dira « Mon langage, c'est le seul moyen de donner une réalité à cette expérience niée et impossible. » En 64, elle publie « Le Poponax » et elle remporte le prix Médicis avec ce livre qui va la faire du coup connaître et apprécier d'auteurs comme Nathalie Sarraute, Rob Breguet, le nouveau roman. Et Le Poponax, en fait, va être déjà le point de départ, ou peut-être juste déjà la continuité, de ce qui va être un peu le fil rouge de toute sa vie, à savoir articuler une pensée politique et un chantier littéraire, et d'articuler toujours ces deux facettes, et notamment de parler de la norme depuis un point de vue minoritaire, depuis les marges, en fait, et d'ériger un point de vue minoritaire en universel, un point de vue d'enfant, un point de vue de femme, un point de vue de lesbienne. Et donc, en fait, elle va à chaque fois articuler action directe politique et parution d'ouvrages. Elle s'inscrit dans Mai 68, et puis en 69, elle publie Les Guerrières, qui est une espèce d'épopée collective féminine lesbienne, dont le pronom personnel majoritaire, enfin unique, et le féminin pluriel. Elle va ensuite vraiment s'impliquer en tant que militante féministe. En août 70, elle fait partie de la dizaine de femmes qui déposent une gerbe sur la tombe du soldat inconnu en disant qu'il y a plus inconnu que le soldat inconnu, sa femme. Monique Wittig porte un panneau « Un homme sur deux est une femme » ce jour-là. Elle est avec Christiane Rochefort, qui est aussi enterrée dans le cimetière. Elle est avec Christine Delphi ce jour-là. Et donc ça pose l'acte de naissance du mouvement de libération des femmes, le MLF, dans lequel elle va vraiment s'investir à travers plein d'actions directes, des groupes de parole. Mais assez vite, il va se créer des formes de dissension, de tension au sein du MLF, parce que Monique Wittig est certes une femme, mais elle est aussi une femme lesbienne. Et elle a envie que ça puisse se dire au sein du MLF, que ça puisse exister, que ça puisse être des questions qui se posent, et que des lesbiennes puissent être présentées comme telles et militer en tant que telles au sein du MLF. Et ça, tout le monde n'est pas forcément de cet avis-là au sein du MLF. Il y a différents courants. Tu as les essentialistes, différentialistes, qui sont représentés par Antoinette Fouque, inspirée par la psychanalyse. Et tu as les féministes matérialistes, radicales, plus par Christine Delphi, Colette Guillaumin. Et Wittig s'inscrit plus dans cette deuxième mouvance. Et du coup, au sein du MLF, ça va être compliqué de faire exister cette question lesbienne, parce qu'on va lui rétorquer que ça va possiblement affaiblir le mouvement, le diviser, qu'on est avant tout un groupe de femmes. C'est déjà suffisamment compliqué d'exister politiquement en tant que groupe de femmes. Si on apporte des sous-catégories, ça risque de l'amoindrir et de le diviser. Donc c'est quasi impossible en fait de traiter cette question lesbienne au sein du MLF. Donc elle va avoir envie aussi de s'en émanciper au détour d'une action pendant une émission de radio en 71 de Ménie Grégoire, dont le sujet était l'homosexualité, ce douloureux problème. Il y a une action directe qui vient, ils interviennent dans les locaux de la radio, et ça va être une des premières actions du FAR, donc le Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire, qui au début est composé de pas mal de lesbiennes en fait du MLF. Avec des mecs gays. Avec le temps, les hommes gays arrivent un peu plus en masse dans ce mouvement, ce qui fait perdre de l'intérêt pour les femmes lesbiennes, en fait, l'implication dedans. Ils prennent beaucoup de place, hein, on n'est pas surprise de ça. Mais du coup, ça devient compliqué pour elles de garder la ligne. Et elles vont créer ensuite les Gounes Rouges. Les Gounes Rouges qui a une existence d'une ou deux années, où ça va être beaucoup essentiellement des groupes de parole. Quelques actions directes. En parallèle, elle va publier Le corps lesbien que tu as sur les genoux. À chaque fois, en fait, dans toute sa littérature, elle va utiliser
des codes littéraires, des figures, des traditions, et vraiment les détourner avec ce point de vue lesbien minoritaire. Donc par exemple, le corps lesbien, c'est de la poésie en prose, mais elle va se servir un peu des mythes de la poésie romantique en le poussant jusqu'au bout, en le trashisant un petit peu. C'est pas du tout les codes romantiques hétéro-traditionnels. Et donc toutes ces querelles au sein du MLF, ça va être très compliqué à vivre pour elle. Elle parle d'un séjour en enfer, toutes ces années-là, et ça va avoir un espèce de climax, enfin d'apogée, ces conflits. En 78, elle va donner une conférence à la Modern Language Association, où elle va pousser vraiment son point de vue autour de l'hétérosexualité comme un régime politique. Elle va dire que vivre en société, c'est vivre en hétérosexualité, et que les lesbiennes échappent à ce contrat social et à cette forme de domination masculine, et qu'à ce titre, elles ne sont pas des femmes. Et elle finit cette conférence en disant « Les lesbiennes ne sont pas des femmes ». Et ça, c'est très compliqué, ça fait vraiment l'effet d'une bombe au sein du MLF. Et donc, elle est plus ou moins contrainte à s'exiler. En tout cas, elle trouve une terre d'accueil aux États-Unis où elle part en 76. Elle va enseigner dans des départements de Women's Studies. Elle va être avec sa compagne. C'est une des seules qu'on lui connaît officiellement, qui s'appelle Sandy Zegg, qui est américaine, qui est cinéaste, et avec qui elles vont écrire du coup Le Brouillon pour une action des amantes sur l'île de Santorin. Et donc elle finira sa vie aux États-Unis où sa pensée a un écho assez phénoménal. Elle va écrire le livre en 82 qui s'appelle Virgile Non, qui est une reprise de l'enfer de Dante avec elle dans le personnage principal, Wittig, et Mana Stabal, son guide, où elles vont passer des enfers, une société hétéro-patriarcale ultra-violente, qui tue des femmes, qui les affame, etc. Au limbe, où il y a des affranchis, des âmes affranchies errantes, au paradis lesbien. Et du coup, son but est, avec son guide Mana Stabal, d'amener toutes ces femmes damnées des enfers vers le paradis lesbien. Donc c'est assez drôle. C'est Virgile Non. Et puis elle va bien sûr écrire en 82 La pensée straight, qui est la synthèse de sa pensée autour de l'hétérosexualité comme un régime politique oppressif, qui va inspirer après Judith Butler et tout ça, qui sera traduit en français qu'en 2001. Donc ça met beaucoup de temps, sa pensée, à venir jusqu'ici. Elle a fait une conférence dans les années 80 à Pompidou qui a attiré énormément de monde, mais sinon elle a vécu toute la fin de sa vie aux States. Elle est morte en Arizona en 2003.
Comment t'as connu Monique Wittig ?
Alors, tu veux dire personnellement ou l'œuvre, j'ai connue dès le début parce que...
Suzette.
Parce que j'ai lu Le Poponax, donc son premier livre, et après j'ai continué à lire. Et puis ensuite, elle sort Les Guerrières. Bon, 69, là, j'avais. J'étais quand même un peu plus âgée. Et puis Le Corps Lesbien, alors ça, honnêtement, je ne pouvais pas le rater. Donc, je l'ai lu sans comprendre forcément qu'est-ce qu'elle avait voulu faire sur le plan littéraire. Je veux dire, Le Corps Lesbien en particulier, c'est quand même un texte assez difficile à lire. Les Guerrières, c'est plus facile, mais quand même, comprendre exactement son projet littéraire. C'était pas clair forcément dans ma tête à ce moment-là. Et après, il y a eu le brouillon pour dictionnaire des amants, tout ça. Bon. Alors, comment je l'ai connu moi, j'étais pas à Paris. Je suis arrivée plus tard à Paris. Quand je suis arrivée à Paris, j'étais journaliste plutôt du côté des luttes ouvrières, donc pas du tout du côté du féminisme. Et puis, j'étais pas dans ces cercles-là. Et j'ai créé avec Michel Cosse et Sylvie Bompi, on a créé à trois la revue Vlasta, qu'on a intitulée en sous-titre « Revue des fictions et utopies amazoniennes ». L'idée, c'était d'abord, on s'était rendu compte qu'il y avait beaucoup de textes ailleurs, dans d'autres pays, qui étaient peu connus et pas traduits. Or, Michel, justement, était traductrice. Et donc, l'idée, c'était de faire circuler des textes. Il y avait vraiment besoin de faire quelque chose qui soit non mixte. Donc, on a décidé de faire un numéro spécial sur Monique Wittig parce qu'à ce moment-là, elle était plus en France, ça c'est sûr, mais surtout, il y avait eu toute cette bagarre au sein du mouvement féministe autour du texte de la pensée straight, et il n'y avait plus rien dans la presse sur elle ni quoi que ce soit, et puis je trouvais qu'il fallait vraiment parler de Monique Wittig, que Vlasta était faite pour faire un... Voilà. Donc je l'ai connue en 82 ou 3, je ne me souviens plus exactement. C'était plutôt 83. Et ben, je l'ai contactée pour faire ce numéro avec elle. Quand elle était de passage à Paris, j'ai rencontré, et voilà. Donc, tout simplement. Et donc, ça nous semblait important. C'était vraiment une revue qu'on voulait, militante bien sûr, mais littéraire au sens de vraiment faire voilà, des comptes rendus de livres, des traductions, voilà, faire circuler. Donc, Blasta Vitic, ça s'imposait de fait. Et donc, j'ai travaillé. Ça, c'était pas facile parce que, pour une raison très très simple, c'est que je n'ai trouvé que des Américaines qui écrivent sur Wittig. Parce qu'à l'époque, il y avait la première thèse sur Wittig en France, la première et l'unique thèse actuellement que sur Wittig en France, a été écrite en 1998-99 par Catherine Carnot. Et elle l'a fait avec beaucoup de difficultés parce que c'était pas évident de déposer une thèse sur un sujet comme Monique Wittig. Dans le numéro, on trouvera que des textes pratiquement d'Américaines ou d'une Espagnole et autres. Et voilà. Et puis, quand je me suis un peu plus stabilisée à Paris, c'est vrai que tout en allant aux manifestations féministes, j'avais plutôt envie d'aller dans le groupe lesbien, ce qu'on a créé d'ailleurs à un moment donné avec d'autres copines lesbiennes, on a créé le groupe lesbien de Paris. Donc je n'ai pas été dans dans tous ces groupes qui étaient à l'Arc de Triomphe, mais j'étais à une grande rencontre à Vincennes, j'ai participé à différentes grosses manifs sur l'avortement, contre Anita Bryant, en fait, j'étais là. Mais j'ai plutôt participé du côté des créations des groupes lesbiens. Donc, je n'étais pas là quand il y a eu la grande rencontre internationale à Francfort, où il y a eu l'idée de faire un groupe, un front lesbien international. Moi, je n'étais pas là. Et après, par contre, j'étais là au moment où il y a eu le débat autour de la pensée straight, autour de ces textes-là, avec les explosions qu'il y a pu y avoir des deux côtés. Ça, oui, j'étais à Paris. Oui, je pense que ça a été des années extrêmement, extrêmement difficiles et douloureuses, puisque ça a quand même donné lieu à des procès et au fait que celles qui étaient du côté de la pensée de Monique Wittig se sont retrouvées dehors.
Dehors de quoi ?
De la revue Questions féministes, qui après est devenue Nouvelle Question féministe. Et que ça a marqué la naissance de groupes lesbiens, entre autres de groupes de lesbiennes qui se disaient de groupes de lesbiennes radicales, de différents groupes. Et ces années 80, en même temps, dans le cadre de la, pas uniquement dans le cadre de ce texte de Wittig d'ailleurs, mais ce sont des années où vont naître des groupes lesbiens un peu partout en France. Et ça, c'est extrêmement important. C'est pour ça que quand on dit cette année, on va fêter les 50 ans du MLF, c'est vrai. On peut fêter aussi les 40 ans des groupes lesbiens parce que c'est le moment où les groupes vont exister, où il y a des journaux, il y a des revues, bon, Blasta existe, des groupes lesbiens se créent dans différentes villes, des rencontres nationales, un camping, deux campings, voilà. Et ça c'est souvent minoré dans l'histoire. Quand on lit les livres sur l'histoire du féminisme en France, on voit souvent être lesbien un peu en note de bas de page. Et puis, ou un petit peu comme si c'était une. Comme si les lesbiennes voulaient se désolidariser. C'est-à-dire qu'on ne voit pas que souvent les lesbiennes. Enfin, pas souvent, les lesbiennes ont toujours été aux côtés des féministes. On était partout dans toutes les manifs. Mais il y avait effectivement des revendications, et pas que des revendications. C'est-à-dire qu'il y a eu il y avait quand même la nécessité de se rencontrer pour parler, se raconter. Voilà. Et puis toi, à quel moment t'as su que t'étais lesbienne, et puis comment ça s'est passé, et puis les parents, et puis ta première amie, et tatata, enfin tout ce qu'on appelait le coming out, mais tout ce récit de vie qui est important à faire dans la constitution d'une conscience collective, et justement une conscience collective, que c'était plus une histoire de soi avec une amie ou avec un groupe d'amis, mais quelque chose de collectif.
Monique Wittig, Le corps lesbien, 1973. Ton poil est tout noir et brillant. Dans l'intervalle des longues mâchoires dents découvertes, je reconnais ton sourire ambigu, infini. Tes oreilles hautes bougent et s'agitent. Ma main, en se posant sur ton flanc couvert de sueur, fait se hérisser ta peau. Je parcours toute ton échine à doigts légers, ou bien mes mains s'enfoncent dans ta fourrure. Je touche tes mamelles dures, je les presse dans ma main. Toi, sur tes pattes dressées, tu te tiens l'une d'elles par instant, grattant le sol. Ta tête sur ma nuque pèse, tes canines entaillent ma chair au plus sensible. Tu me maintiens entre tes pattes, tu me contrains de m'appuyer sur mes coudes, tu me fais te tourner le dos, tes mamelles s'appuient contre ma peau nue, je sens tes poils toucher mes fesses à hauteur de ton clitoris. Tu me grimpes, tu m'arraches la peau des griffes de tes quatre pattes, une grande sueur me vient chaude et tout aussitôt froide, une écume blanche se propage le long de tes babines noires. Je me retourne, je m'agrippe à ta fourrure, je prends ta tête entre mes mains, je te parle, ta grande langue passe sur mes yeux. Tu me lèches les épaules, les seins, les bras, le ventre, la vulve, les cuisses. Il vient un moment où, tout enfiévré, tu me prends sur ton dos, ma louve, mes bras autour de ton cou, mes seins, mon ventre appuyé à ta fourrure, mes jambes t'enserrant les flancs, mon sexe sautant contre tes reins, tu te mets à galoper.
Bah, Monique Wittig, elle a été quand même assez importante dans ma vie parce que...
Camille.
La pensée straight, ça a été quand même un boom dans ma tête, dans ma vie, sur le plan politique. Et le corps lesbien, c'était un peu un boom dans mon corps et dans ma sexualité. Je me rappelle très bien exactement l'état dans lequel j'étais quand j'ai lu ces deux livres. Aussi Le Poponax et aussi Brouillon pour un dictionnaire des amantes. Ce sont des ouvrages qui m'ont énormément marqué et qui m'ont certainement influencé aussi bien sur le fond que sur la forme. Je me rappelle de cette jubilation quand j'ai lu Le corps lesbien avec cette manière qu'elle a de mettre des slashes devant chaque E ou à certains endroits des mots et de créer des espèces de coupures et de séparations aussi à la fois en lien avec cette idée de... du féminin ou pas, et des lesbiennes qui sont des femmes ou pas. Et puis ça a une manière comme ça de scander le texte. Enfin, c'est une forme de poésie que j'avais probablement pas vue, pas lue jusqu'à présent. Ça m'a impacté énormément. Et puis aussi ce qu'elle décrit, comment elle rentre dans les organes, où d'un coup on est dans une oreille et on plonge dans une oreille. Et on ne sait pas si c'est abject ou hyper sensuel. Et elle arrive vraiment à rester sur cette brèche très longtemps, quoi, et à transformer des choses qui paraissent à la limite dégueulasses. Et elle arrive à en faire quelque chose de cru, de sensuel, de sexuel.
Qu'est-ce que tu as retenu de la pensée straight? Tu dois retenir un truc?
Que l'hétérosexualité est un régime politique, qu'il faut le détruire.
Est-ce que quand elle dit qu'elle est lesbienne, elle parle de son orientation sexuelle, ou est-ce qu'elle parle d'une identité politique? Et est-ce que quand on s'énonce et qu'on dit quelque chose de soi, on s'énonce pour soi et pour s'installer dans une... s'affirmer, s'instituer? Ou est-ce qu'on le fait dans une perspective politique parce que pour autrui, c'est important de... se désigner hors du système ou pas. Et d'ailleurs, j'ai été influencée par Monique Wittig dans mon adolescence et quand j'étais jeune adulte, enfin autour de 20 ans, parce que j'ai lu ces bouquins autour de 20 ans, je pense que pendant un certain temps, j'ai dû utiliser le terme lesbienne dans cette perspective-là. Donc plutôt pour... de fait, j'étais lesbienne, mais je ne l'utilisais pas pour parler de ma sexualité, mais pour parler... à cet endroit-là qui est hors de l'hétérosexualité comme régime politique tel que tu le disais et comment elle aussi l'a énoncé. Il y a un moment donné où j'ai essayé de donner une dimension politique à la bisexualité et ce fut partiellement un échec, à la fois du fait de la biphobie dans nos milieux queer, LGBT, mais aussi de la difficulté d'utiliser la bisexualité. En tout cas, à ce moment-là, c'était difficile comme une identité politique. Parce que ce qui était renvoyé, c'était justement que ça n'avait pas la force d'un lesbianisme séparatiste, ça n'avait pas la force d'une position radicale. Et tout ça, en plus, nourrit après de préjugés, on mange à tous les râteliers, on transmet les maladies, on choisit pas son camp. Voilà, il y a eu cette période-là. Maintenant, si je devais décrire ou si je devais parler de mon régime sexuel, je parlerais plutôt de pansexualité et je me considère très privilégiée à cet égard. Je pense que c'est un luxe et une joie que j'ai, moi particulièrement, que de ne pas être trop affectée par des injonctions, ni dans mon éducation, ni sociale, qui font que j'ai pas J'ai pas de frein particulier par rapport à des types de morphologie ou de corps. J'aime avant tout des voix, je crois. Avant tout des timbres de voix, des manières de se déplacer, des types d'individus, d'intelligence, de types de personnes créatives. Je crois que c'est ça qui m'attire. Après, que cette voix elle soit portée par un corps cis, un corps trans, un corps blanc, un corps racisé, un corps peu importe sa forme, c'est pas quelque chose qui m'arrête dans, ou qui mobilise ou pas mon désir. Donc je dirais plutôt pansexuel, bisexuel, lesbienne, queer. Donc en fait, un seul mot ne viendrait pas couvrir qui je suis. Parce que se recoupe sur le terme lesbienne plusieurs notions. Il n'y a pas que la sexualité, il y a l'identité. Et en même temps, l'identité elle-même est questionnable. Avoir une identité est questionnable. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'ai compris au fur et à mesure du temps. Au début, c'était important. J'avais l'impression que c'était important d'avoir une identité et je voulais la revendiquer. Et maintenant, je me rends compte que c'est pas important. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est devenu plus important. Et même, c'est peut-être un problème, même l'identité. Et parler d'identité, c'est un problème. Il faudrait peut-être pas avoir de quartier d'identité. Il faudrait pas peut-être être attaché à l'identité. Mais en même temps, la société nous renvoie à des identités et des identités figées, et donc c'est quand même, on peut pas faire comme si ça n'existait pas.
Sois ma très chérie puissante, assise ferme sur tes talons, que tes cuisses soient d'airain, tes genoux de boue rouge d'argile, tes mains adorables posées appuyées sur tes vastes externes, qu'elles soient d'or d'améthyste de fluide mercure, que ta poitrine soit verte et brillante de même consistance que l'envers des feuilles d'arbre, que ton buste soit d'acier trempé, tes épaules de cuivre, que tes reins soient de fer, que ton cou soit d'argent, que ta nuque soit d'étain, que tes joues soient de platine, que tes yeux soient, ma préférée, de plomb fondu et de lait, que ta vulve soit d'iridium ardent, infusible véhémente, que ta vulve soit lèvres, cœur, clitoris, iris, crocus d'osmium odorant réfractaire. Sois forte, ma plus belle, et la plus enfiévrée, la plus criante, mes mains à te toucher, se cassant, ma voix cherchant à redoubler ta voix.
Attends, j'ai peut-être un autre chemin à faire, puisque ça, on le fait jamais dans cet ordre-là.
Je dis lesbienne, et en fait, j'arrive pas à me souvenir, enfin, je me souviens pas d'un moment phare où je me suis dit, ça y est, je le dis, tu vois.
Tani.
En fait, j'avais eu des discussions avec des potes. Il y a une pote, sa mère, quand elle parlait de ma copine, disait tout le temps homosexuel, tes amis homosexuels. Et en gros, ma pote n'en pouvait plus, quoi. Elle disait, mais j'en ai marre. Ça m'irrite quand j'entends ce terme homosexuel, je déteste. Et on avait eu un débat justement sur quel mot qui préférait, quoi. Et j'avoue que moi, j'aime pas trop homosexuel. Je trouve que ça fait très médical. Et ouais, lesbienne, j'aime bien. Gwyn, j'aime bien aussi. Mais c'est vrai que c'est un côté un peu plus vulgaire. Et enfin, je sais pas, je me vois pas dire, par exemple, au boulot, je suis Gwyn, ou tu vois, avec... Après, je me suis un peu questionnée à un moment donné, parce que je connaissais pas le terme pansexuel. Et du coup, je me disais oui, mais par exemple, je pense encore aujourd'hui que ça pourrait m'arriver, tu vois, d'avoir une relation avec une personne trans. Et donc, dans les faits, peut-être que je suis pansexuelle, mais après, je trouve ça important aussi de... Il y a tellement de manque de représentation des lesbiennes, et je pense que je suis quand même peut-être plus attirée par les filles, du coup. Enfin, en tout cas, j'estime, je défends plutôt le truc de « je suis lesbienne », quoi. Je pense que aussi une des raisons pour lesquelles je préfère dire lesbienne que pansexuelle, c'est que je trouve que lesbienne, il y a aussi une identité, une culture derrière, en fait. Et c'est ça aussi que je pense qui me parle et que je veux défendre, tu vois. Peut-être que quand tu dis pansexuel, c'est plus... on qualifie plus tes rapports, enfin ton orientation sexuelle, mais je trouve que derrière lesbienne, il n'y a pas que le sexe et ton orientation. Enfin, je trouve que ça regroupe aussi bien d'autres choses. Donc c'est ça aussi que j'aime derrière ce mot.
Alors, nous sommes là. On veut retourner là. En fait, il y a une petite trotte, hein, les amis. Hop.
Ouais, mais du coup, elle est près de la sortie, en plus.
Tout à fait. Alors, on va prendre le chemin. Là, c'était Gramont. Hein. Alors, on va pas prendre là, on va prendre le Brun.
Gramont, ce sera la prochaine à droite.
Et j'ai découvert Monique Tigue, je dirais, quand j'étais à la fac.
Louise.
Donc, c'est pas du tout la première féministe que je lis. Hein. La première, pour moi, c'était... Enfin, la première fois que j'avais lu un bouquin féministe, c'était Simone de Beauvoir. Et c'était quand j'étais en seconde. J'avais 15 ans. Et j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et après, en fait, quand j'étais... ça m'a donné envie de lire d'autres livres féministes. Et donc, un peu de manière complètement désordonnée. Après, en terminale, en première année de fac, j'ai commencé à lire Judith Butler, que je trouvais trop bien, même si c'était assez complexe, je trouvais ça assez génial. Et c'est que après avoir lu Judith Butler que je suis passée à Wittig, donc c'est pas tout à fait dans l'ordre chronologique. Et donc moi j'ai adoré en fait ce terme, enfin cette phrase, les lesbiennes ne sont pas des femmes. Ça m'a vraiment parlé. Parce que c'était à l'époque où, comme je te disais, j'avais mon gang de lesbiennes, je revendiquais, enfin, c'était quelque chose que je revendiquais énormément. Et pour moi, c'était vraiment un espace dans lequel je me sentais un peu en dehors de la société, quoi. De la société, de la manière dont on attend qu'une femme se comporte. Et donc, pour moi, il y avait une certaine liberté. Et comme je te disais, en fait, être lesbienne, pour moi, c'était vraiment sortir du regard des hommes, sortir du regard hétérosexuel, du patriarcat. C'était vraiment une liberté. Et du coup, le fait qu'elles disent « les lesbiennes ne sont pas des femmes », moi, je l'ai perçu vraiment comme l'idée que, en fait, en étant lesbienne, on échappait à la domination. C'est-à-dire qu'on arrivait, en fait, à... On avait trouvé une porte de sortie, on avait trouvé un échappatoire, en fait, du patriarcat. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne vivait pas le patriarcat dans le reste de notre vie, mais au moins, en fait, le fait de ne pas coucher avec de mecs, le fait de ne pas être en relation avec des mecs, de ne pas avoir besoin, en fait, de ne pas être dans un état de dépendance envers les hommes, faisait qu'en fait, on échappait à tout un pan de la domination masculine, quoi. Et ça, c'était vraiment une liberté et une source de fierté. Donc, il y avait vraiment aussi l'idée, pour moi, de dire aux nanas, mais venez, quoi. Genre, venez avec nous, sortez-vous de ce truc-là, c'est dangereux, alors que nous, c'est trop bien. Enfin, vraiment, il y avait l'idée que, voilà. Après, ça ne veut pas dire que je ne me reconnaissais pas en tant que femme. Donc, et puis, je pense que ce n'était pas forcément le propos de Wittig de dire ça, mais c'était de dire que... L'identité lesbienne, c'est une identité politique. On peut faire le choix aussi d'être lesbienne pour sortir aussi du patriarcat, quoi. Et moi, j'ai fait ce choix-là aussi, dans le sens que... moi, j'ai pas choisi d'être lesbienne, dans le sens que j'ai eu des désirs, des attirances qui m'ont dépassée, et une attraction qui m'a dépassée. Mais après, par contre, j'ai fait le choix conscient de revendiquer cette identité-là, de vivre ma vie en tant que lesbienne. Ça, c'est des choix que tu fais, tu vois. Et ça, pour moi, je dis que c'était vraiment la célébration de ce truc-là, quoi, de se dire, on a fait un choix, et en plus, ce choix-là, en fait, il est révolutionnaire. Il permet, en fait, en étant lesbienne, de se rebeller contre les rapports de domination, contre le patriarcat, etc. Donc vraiment, l'identité lesbienne, elle est féministe, en fait, en soi. Et tu vois, pour moi, c'était génial, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, à la fois, tu vis ta sexualité, t'es heureuse dans ta sexualité, mais en plus, à chaque fois que t'embrasses une nana, en fait, tu fais un acte révolutionnaire. Donc c'est quand même assez dingue, quoi. Tu te rends compte la portée politique, en fait, de ce que tu fais. Enfin, je veux dire, donc, du coup, tu trouves vraiment un engagement super fort. Et ça permet de te donner de la force contre tous les trucs de stigmatisation que tu vas vivre, par contre, dans ta famille, dans la rue, chez tes collègues et tout, tu vois. Enfin, moi, ça m'a donné beaucoup de force, ce truc-là. Donc, Wittig, vraiment, J'aime énormément, quoi. Tu vois, c'est... Voilà.
Donc, c'est vraiment les années 80. C'est pour ça que c'est des années très, très importantes, effectivement, dans lesquelles la pensée de Wittig a joué un grand rôle. Parce que sa phrase « Les lesbiennes ne sont pas des femmes », qui a été interprétée un peu dans tous les sens, hein. C'est sans forcément voir toute la... j'allais dire, toute l'analyse politique et théorique qui est arrivée à cette conclusion, mais en même temps, ça correspondait à une sensation ou une émotion qu'on pouvait avoir. Moi, je sais, quand je l'ai vu, je me suis dit, ben voilà, ça y est, c'est vrai. Moi, je ne me suis jamais vraiment sentie femme, mais je n'ai jamais voulu être un garçon non plus. Donc, mais pas femme, je voulais pas être femme au sens l'essentialisme, les femmes doivent être comme ci, comme ça, machin, etc. Mais je veux pas être un garçon, donc je suis lesbienne. Et brusquement, cette phrase-là, même la prendre à un niveau tout, j'allais dire, même littéral, comme ça, ouais, tu t'es reconnue. Enfin, t'es reconnue, tu te dis, ah ben tiens, ça prête à réflexion en tout cas. Donc... Ça a été vraiment important.
J'ai l'impression que moi aussi personnellement, je me suis d'autant plus intéressée au féminisme en même temps que mon coming out et ma découverte du monde lesbien. J'avoue qu'avant je suivais un peu, mais j'étais vraiment pas aussi engagée et militante. Mais aussi parce que je pense que j'étais pas aussi déconstruite aussi sur un certain nombre de choses. Du coup, ouais, c'est forcément pour moi lié, quoi.
En fait, je sais pas, c'est en découvrant, en lisant des choses, en découvrant des artistes. Attention, je vais passer au mode à confession intime. Tout a commencé. Non, j'ai eu un gros, gros flash sur la chanteuse Christine and the Queens. J'ai vraiment eu une période groupie. Et du coup, après, ce qui était cool, c'est qu'elle partageait quand même pas mal ses lectures ou des idées, des pensées féministes. Et après, même aussi l'image qu'elle représentait, les idées qu'elle défendait d'être une femme, mais d'être une femme comme elle avait voulu, comme elle veut l'être, et se détacher des stéréotypes et des il faut être comme ça, il faut être comme ci. Ça m'a beaucoup parlé. Enfin, elle a mis des mots sur un truc que je ressentais et que j'arrivais pas forcément à pointer. Du coup, j'ai commencé à écouter de plus en plus d'artistes féministes. Après, j'ai découvert Océan. Après, je me suis intéressée à d'autres militantes féministes, Amandine Gay, Rokhaya Diallo. En fait, tout ça est un peu arrivé au fur et à mesure. Et c'est un peu comme ça que je suis rentrée là-dedans. Et donc, du coup, après, il y a eu aussi... aussi toute la déconstruction aussi sur mes cheveux, sur essayer de se détacher de ce que la société veut que tu sois comme type de femme, de personne, et voilà, c'est plus et aussi essayer de changer un peu l'angle de vue du point de vue aussi des minorités et se rendre compte qu'en fait il y a plein d'identités différentes, etc.
Avenue Saint-Maurice, c'est où?
Saint-Maurice.
Est-ce que c'est...
Il y a le soleil, là. Faut qu'on reste au soleil.
Mince, je suis perdue, là.
Je ne pense pas qu'il y a uniquement une manière d'être féministe et que ce serait forcément relié au lesbianisme. Toutefois, en ce qui me concerne personnellement... C'est un chemin qui s'est entremêlé dès le début, c'est-à-dire dans l'adolescence, à travers ma première relation amoureuse. C'est comme ça que j'ai découvert le féminisme, donc ça ne peut pas être détaché pour moi, et ça peut même pas être détaché de cette personne, ça peut même pas être détaché de la notion d'amour et de désir, puisque c'est comme ça que pour moi c'est advenu. Donc c'est intrinsèquement lié, mais après ça s'est émancipé de cette origine. Et maintenant, il y a plein d'autres manières d'avoir un filtre féministe qui sont pas forcément corrélées directement à la sexualité. Même principalement, pas corrélées. J'ai découvert les féminismes, ces textes-là, Monique Wittig, à travers ma découverte de ma sexualité autre que celle qu'on m'avait survendue socialement.
Alors, c'est là qu'on fait un peu j'irai cracher sur vos tombes, là, enfin marcher sur vos tombes. Il s'est mis bien, lui.
Ah, ça s'est dégagé, hein.
Mais
t'avais
oui.
T'avais raison.
Je te le dis, 14h.
Vous venez d'écouter l'épisode 1 du documentaire sonore « Mes voisines ». N'hésitez pas à aller écouter la suite sur la plateforme Podcast Ocha, podcast.AUSHA, « Mes voisines ». Vous y retrouverez Mathilde Morny, Françoise Rocourt, DJ Sextoy et bien d'autres encore. Merci à Mélanie pour cette série absolument fantastique.
Twinkle, twinkle, titty twister, you tricked your mum and killed your mister. She's got flowers in her hair. Virgin victim, it's not fair. Dancing queen, spinning top, twist and spin, spin and drop. Heroin addict, girl next door, who only made it to the floor. Lolly Polly, poster girl, pastel colors suit you well. Good night, sweet dreams, go to hell. The Pope, he says you really smell. Twinkle, twinkle, titty twister, bubble bath and then the toaster. Nowhere left but on the poster.
I know you already told me you couldn't take it anymore. The center of attention. After a while it's such a bore. I left you to your own devices. You've crashed the system. This is your crisis. On the poster, you look so good. In reality, I wish you could be here with me like the girl next door, without the show or your head in the floor.
Twinkle, twinkle, titty twister, you tricked your mom and killed your mister. She's got flowers in her hair. Virgin victim, it's not fair.
Langue de Fronde, une émission féministe sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM tous les deuxièmes lundis du mois de 18h à 19h.